Jérémy Gagnon, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Hey, bonjour, merci Sam, merci de m'accueillir.
Donc Jérémy, je vais te laisser te présenter.
Oui, bon, je m'appelle Jérémy Gagnon. J'ai fondé l'entreprise Pépinière Permex il y a approximativement 6 ans. Après avoir vécu sur des fermes et d'avoir été voir plein d'experts 3 ans auparavant de ces 6 ans-là. Fait qu'on va dire, ça a commencé voilà, à peu près 9 ans. Je produis au-dessus de 200 variétés d'arbres, d'arbustes, puis de fleurs vivaces comestibles, produits forestiers non ligneux, à Val-David. Mais j'ai aussi, en fait, j'ai 3 lieux de production. J'ai Val-David, j'ai Brébeuf et Rivière-Rouge. Donc, je commence à voir un peu des différentes zones bioclimatiques, des différents types de sols, puis une diversité des espèces.
Puis c'est où que ça a commencé cet intérêt? Puis tu dis, je suis allé voir plusieurs mentors. Tu faisais quoi avant de partir à cette quête-là?
Avant de partir sur cette quête-là, j'avais une vie vraiment totalement différente. J'étais gérant de boîte de nuit. Dans ce temps-là, c'était le Bourbon Street à Sainte-Adèle, donc des Pays d'en haut. Moi, je suis natif de Sainte-Adèle, 5 générations qui vit à Sainte-Adèle. On était dans les premières familles colons de Sainte-Adèle. Puis là, je travaillais là-bas, puis à un moment donné, ça a fermé pendant 3 mois. Puis là, j'ai eu la chance de travailler dans les terres agricoles sur une écurie, puis de vraiment revivre la vie, le retour à la terre. Puis ça a vraiment comme changé quelque chose en moi. Puis là, j'ai commencé à lire, à lire, à lire. Puis ça la donnait que la femme de ménage là-bas, c'était la mère de la blonde à mon cousin. Puis à elle, c'était la copine d'un agriculteur qui vivait dans les Laurentides. Donc, j'ai eu la chance de tout lâcher ça. Un an avant que la place ferme, parce que c'est moi qui faisais tout l'inventaire, je voyais que l'économie puis le modèle d'affaires, il était mort. Donc, j'ai décidé de réorienter ma vie vers quelque chose qui était plus aligné avec mes valeurs, puis ce qui était plus naturel à moi, là, c'est dans mes gènes.
Puis je dois le dire, tu sais, comme je t'ai invité, puis on est amis, mais la première fois que je suis allé voir tes installations, il y a de ça peut-être 5 ans, je ne sais même pas si tu t'en
Oui,
rappelles,
vous étiez trois.
j'étais tellement impressionné par non seulement l'aménagement, c'est-à-dire l'architecture, puis la terraformation, parce que tu travailles avec des machineries lourdes, puis on va en parler. Mais aussi par la collection de végétaux. Comment on arrive à, du jour au lendemain, avoir une collection aussi diversifiée et un cheptel aussi massif, là?
Bon, en fait, j'ai transféré la programmation neurologique que j'avais octroyée dans mon travail de gérant de bord. C'était en étant la boîte de nuit la plus prisée, on a des clients qui sont qui ont des besoins très prisés. On avait un immense inventaire d'alcool de différentes qualités. Donc, j'ai pu transmettre ma capacité d'inventaire, puis de recherche d'inventaire, puis de recherche de produits, parce que c'est moi qui faisais toutes les commandes d'alcool pour l'établissement. Des fois, je pouvais commander 140 000 $ d'alcool pour une fin de semaine. Fait que ce volet-là était facilement transférable dans des plantes, en faisant toutes les recherches de toutes les pépinières qu'il y avait au Québec, les pionniers, en fait, des producteurs d'arbres et d'arbustes. Puis là, ça, que j'ai commencé à découvrir des vieux vergers, puis à découvrir des vieilles fermes. Qu'il y avait encore des patrimoines génétiques assez intéressants. Ouais.
C'est quoi la stratégie pour arriver à faire grandir sa pépinière? Tu sais, c'est inconcevable d'acheter des plants déjà développés puis aux échelles auxquelles tu es. C'est quoi la stratégie? Est-ce que tu pars, tu sais, puis bien sûr, c'est adapté à quel type de végétaux, sa méthode de reproduction, etc. Mais tu peux un peu nous parler à travers la stratégie pour, avec le moins de capital, puis je sais que tu as eu un investissement de départ énorme, là, mais avec peut-être la manière la plus efficace de faire grandir une pépinière.
OK, en fait, le premier lieu, c'est de choisir une certaine philosophie ou une technique qui était applicable aux environnements, au terrain que j'avais accès, qui avait été évalué selon leurs ressources, selon donc quel stade forestier qui était, puis ce qu'il y avait déjà là qui poussait. Puis là, par la suite, j'ai pris la philosophie qui venait de Sepolzer, qui est en Autriche, qui est en fait un des grands pionniers de l'agroécologie du monde. Donc quand j'ai fait ça, j'ai aussi regardé les dépôts glaciers puis les différents dépôts de sol pour là, par la suite, voir, OK, bon, mais si j'implante mon système, mes plantes vont-elles être capables de survivre sans arrosage une fois bien établies, puis aussi d'être capables de survivre aussi, puis d'arriver à maturation puis à produire.
Fait que ça fait que tu as juste l'objectif final de « je veux un écosystème riche et varié qui soit le plus productif possible ». Tu n'as pas nécessairement un attachement envers telle ou telle plante.
Non, j'ai en effet, pour en avoir autant de diversité, j'ai pas tant d'attachement. C'est ça, j'ai développé des attachements à certaines espèces, dont le ginseng, dont tous les arbres à noix, les chênes, tous les arbustes fruitiers. Pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment passionnant. Toutes les différentes variétés de pommes aussi, les poires, les prunes. Je suis quand même assez obsédé par tous les différents cultivars. C'est, mon objectif, c'était octroyer de la diversité. Tantôt, tu parlais de mon investissement. Mon investissement a été majoritairement dans l'achat de machinerie puis dans l'achat d'outils. Il y a eu une différence aussi dans l'exécution des contrats et ainsi de suite. Donc, moi, mon but stratégique, c'est d'avoir un coût d'investissement qui était le plus bas. J'ai octroyé des boutures ou des reproductions végétatives de plusieurs différentes pépinières, en fait, aux producteurs. Puis là, mon objectif, c'est de... J'ai calculé ma surface de pied carré puis combien de plants je pourrais reproduire par la suite avec des plants mères. Puis c'est là que ce modèle-là d'affaires il est vraiment devenu intéressant. C'est sûr qu'il a pris un petit peu plus de temps que je croyais, mais c'est là que c'est vraiment rendu intéressant.
Mm-hmm. Puis ta vision, c'était dès le départ une entreprise d'aménagement puis de design écologique. Donc tu reproduis des plantes pour les
installer. Exactement, mais aussi je fais la conception, je suis rendu même à conseiller mes clients pour l'achat des terrains. L'année passée, j'ai consulté deux différents clients pour un total de 150 heures d'achat de terrain selon les études de sol puis selon les études de toutes les ressources qui étaient sur le terrain puis qu'est-ce qu'on pouvait faire aussi avec ces terrains-là. Donc, mon service est vraiment divers, mais il y a aussi comme j'essaie d'éduquer mes clients, je veux leur offrir un projet client même, mais j'aime ça aussi que mes clients soient bien attentionnés parce que ça demande beaucoup d'observation. Moi, je peux marcher mes jardins plusieurs fois par jour pour les observer, puis là, ça fait des années que je les observe et ça m'a donné une bonne compréhension puis une bonne capacité de reproduction aussi des succès là, de plantation.
C'est quoi, mettons, les demandes de tes clients? Est-ce que c'est plus l'autonomie? Est-ce que c'est la résilience par rapport à des chocs extérieurs, par exemple? C'est quoi les motivations? Puis, on va le dire, on est au printemps 2020, en pleine pandémie. Est-ce que cet événement-là a changé non seulement la motivation de ta clientèle, mais peut-être leur nombre aussi.
Oui, bien en fait, tous mes clients sont certainement intéressés par une certaine autonomie, proximité, une résilience. Mais c'est aussi un grand retour à la terre. Tu sais, c'est génétiquement en nous depuis, ça fait juste deux générations, même peut-être plutôt une, qu'on s'est vraiment dissocié de la vie, de la connexion avec la terre, puis avec la récolte des petits fruits, puis une plus grande autonomie alimentaire. Donc, mes clients, ils viennent vers moi pour des conseils, pour comment lire le terrain, entre autres. Ma force, c'est beaucoup développé aussi dans la lecture du terrain, que ce soit visuel ou... quand j'ai commencé à tomber dans les minéraux de roche, je visualisais des pierres, puis j'ai réussi à toutes les trouver. Là, fait que c'est comme de se connecter à c'est quoi nos ressources qui sont là, l'eau, les roches. C'est juste de réallumer la flamme en eux, en fait. Puis après, mes clients, ils deviennent des jardiniers passionnés. C'est vraiment beau à voir, en fait.
Fait que toi, t'arrives, puis là, ils ont des demandes ils ont une vision là, d'une forêt nourricière, d'un jardin, d'un type d'écosystème. Puis toi, tu les amènes profondément dans l'histoire géologique, écologique et aussi humaine, là, l'habitation humaine de leur terrain. Puis là, la passion embarque, puis ils deviennent plus engagés, ouais. C'est ça?
Exact. Ben, c'est comme quelqu'un qui est tellement passionné d'une équipe de hockey. Ils vont connaître tous les noms des joueurs de hockey. Ils vont savoir quelle année il a fait combien de tirs de pénalités, puis ainsi de suite. Mais c'est tellement facilement transférable à hey, wow, cette plante-là est cultivée ici depuis telle année, puis là, elle a tel lien avec ça, puis ci, puis ça. C'est assez facile, en fait. Ça fait partie de
nous. Tu disais, ouais, ça fait partie de nous, mais toi en particulier, peut-être, parce qu'il y a cette. Je me compare à moi, là, qui est un immigrant de première génération. Là. Toi, tu parles de cinquième génération de Laurensois. Comment on appelle les habitants des Laurentides?
Laurentiens. Laurentien. Un Laurentien.
Laurentidois?
Non, un Laurentien.
Fait que cinquième génération de Laurentien. Et c'est quoi la place de ta filiation puis de ta relation aux ancêtres dans ce que tu fais puis ta relation aux Laurentides aussi?
En fait, ma relation au Québec est beaucoup plus longue que la relation. Les Gagnons sont arrivés ici il y a 376 ans. C'était des agriculteurs puis des tenanciers d'épicerie. Donc, le lien avec la nourriture puis la distribution de la nourriture est vraiment présent. Puis mon autre nom de famille, c'est Campo. Puis c'est les Campo, en fait, sont arrivés en même temps que le docteur Grignon, qui est un personnage très important avec le curé Labelle, en fait. Donc, ça a été des personnages... vraiment essentiel au développement des Laurentides. Puis, tu sais, l'histoire des Laurentides, je t'en parle souvent, mais c'est pas ce que nos parents pensent que c'est, là, à cause des belles histoires des pays d'en haut, puis Séraphin, là. L'agriculture était super belle, était super fertile, il y avait des cercles agricoles, tout le monde, tu sais, le docteur Grignon, c'était le seul qui a formé pendant 22 ans, tous les cercles et les coopératives agricoles pour le ministère du gouvernement de l'agriculture. Là. Fait que, on a ici un esprit de gens qui ont travaillé les fermes forestières et qui ont juste suivi les pas de la légende du Canada et du Québec. Là.
Puis, dans la vision populaire, puis je ne sais pas d'où ça vient, mais... Il y a, la colonisation du Piémont puis du plateau des Laurentides au 19e siècle avec le curé Labelle.
Bon, c'est au 18e siècle, mais il y a eu une pré-colonisation, faut pas oublier. Puis, faut pas oublier aussi l'occupation des Premières Nations. Là, je vais donner exemple à Nomineng, à 1 heure de Sainte-Adèle. Il y a 6 à 8 000 ans d'histoire d'occupation du territoire.
C'est quoi la place du curé Labelle dans cette colonisation-là qui semble être... C'est un peu comme le Québec qui passe de colonie de comptoir à colonie de peuplement. Mm-hmm. Il y a comme une habitation délibérée, l'installation des paroisses avec des villages autour. Ouais. Et un peu la... Je sais pas si... Puis corrige-moi, mais le curé Labelle a un peu une figure de crackpot, dans le sens que personne croyait au potentiel agricole des Laurentides.
Jusqu'à temps que le docteur Grignon puis mon arrière-arrière-arrière-grand-père arrive. Je vais te donner, l'origine du nom Campo, c'est Petit Champ. Donc, c'était les spécialistes de la gestion des petits champs et le docteur Grignon était le spécialiste de la médecine vétérinaire et de la génétique des animaux. Il ne faut pas oublier que dans ce temps-là, toute l'énergie de récolte ou de travail agricole était relié à l'animal, au travail animal, le draft force qu'on appelle. Puis si tu avais les bons animaux, les bonnes techniques agricoles, puis aussi en étudiant les dépôts, les cartes de sol qui avaient été faites en 1962, j'ai pu retracer les anciennes fermes historiques avec des dépôts de sol agricole qui étaient classés numéro 1 ou classés numéro 2. J'ai trouvé les statistiques agricoles de 1855 jusqu'à maintenant. Et ils ont passé à travers la première première, la Grande Dépression. Ils ont passé à travers la grippe espagnole de 1918. Ils ont passé à travers la Deuxième Guerre mondiale. Puis, il n'y avait pas de dette, là. Mm-hmm. Fait que, c'est comme... C'est un peu l'image contraire qu'on a eue de l'idée des pays d'en haut. Puis, c'est la fin que les colons ont eu vraiment de la misère. Puis, c'est pas vrai, là.
Mais le modèle agricole, est-ce qu'il est particulier? Tu t'intéresses à comment un aménagement humain s'adapte à son écosystème. Est-ce que le modèle qu'on avait dans les basses terres du Saint-Laurent a été exporté dans les Laurentides puis il y avait du succès? Ou bien il y a un modèle agricole vraiment qui est plus adapté là, au territoire puis à la chaîne de montagne des Laurentides, là, en général.
Ben, c'est parce qu'il s'est passé, c'est que les Laurentides ont été d'une pré-colonisation où c'était des gens des basses terres qui avaient fui dans les Hautes Laurentides, donc qui avaient apporté des techniques, oui, peut-être des basses terres. Donc, la première erreur, en fait, de la colonisation des Laurentides, c'était les grands brûlés. C'était des feux qui brûlaient pendant 3 mois l'hiver. Ça a vraiment, surtout les Laurentides sont majoritairement des sols sablonneux. Donc, faire des gros brûlis de même, j'imagine pas au printemps, la fonte des neiges avec moindrement une certaine pente, la perte de matière organique et la perte de nutriments due à ces techniques-là. Puis là, par la suite, c'est juste que aussi, c'est que les Laurentides sont devenus aussi des colonies de vacances. Il y a eu beaucoup de gens riches qui se sont cachés ici pendant les Grandes Dépressions et pendant les guerres mondiales, puis qui se sont accaparés les terres agricoles qui avaient un grand potentiel. Puis là, c'est eux qui les ont exploitées, là, d'une façon... Ils ont commencé à introduire l'utilisation des pesticides, des produits chimiques qui ont brûlé les sols. Mais ils avaient déjà brûlé là, auparavant. Là. Il y a eu les grands brûlés. Il y a eu un feu en 1903 qui a brûlé des grandes parties des Laurentides. Puis là, par la suite, il y a sûrement eu d'autres abus. Là, parce qu'ici, ils faisaient de la potasse. Le premier millionnaire en francophone en Amérique du Nord, il a fait sa fortune avec le potasse. Puis ça, les gens, au lieu de cultiver puis de mettre de la potasse dans les terres acides, ben ils l'envoyaient à Saint-Jérôme ou ils l'envoyaient à Montréal pour des pinottes. Mm-hmm. Ben, même pas des pinottes.
Mais est-ce que tu penses que le modèle, tu sais, la chaîne de montagnes des Laurentides, bon, c'est très vallonneux. Il y a des grandes, tu sais, il y a des plaines alluviales autour des rivières. Il y a, c'est vraiment cette mosaïque de champs agricoles et de crêtes vallonneuses, tu sais, de montagnes. Et au 20e siècle, ou du moins depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une reprise forestière dans toute la chaîne des Laurentides. Les terrains de pacage, le pâturage qui était généralement dans les pentes alors que les vallons étaient occupés par l'agriculture, c'est reforesté. Oui. Ma question, c'est si tu de bonnes choses? Parce que tu as l'air de dire... Ah, le potentiel agricole des Laurentides était tellement plus grand à cette époque-là, mais c'était un terrain déforesté qui avait été brûlé au final et dans lequel les pratiques étaient peut-être pas durables.
Ben, les pratiques avaient été grandement encadrées par le ministère de l'Agriculture dû au travail des fermes modèles qui avaient été établies dans chacune des municipalités. Les gens ont pu se revirer quand même assez rapidement, là, mais c'était plus dans le début des 1900, là, où il y a eu la formation des instituts agricoles un petit peu partout, à travers les Laurentides. Là. Non, c'est ça, c'est que là, ces terres-là qui étaient des pâturages en montagne sont en friche. La forêt va s'auto-eutrophier. C'est là qu'il est à son pic de biomasse, puis c'est là qu'on peut faire des super de belles interventions. Puis c'est les places parce que souvent les bas de vallée, la matière organique, oui, elle a été lessivée, mais il y a des micros puis des macros vallées et vallons là, puis des ridges là, fait que quand tu commences à connaître les principes de la fonte des neiges, en fait du principe de podzolisation aussi là, que là tu peux commencer à recréer la fertilité puis plus de lessivage de nutriments, donc prendre les pentes, changer la courbe, suivre les courbes à niveau, redistribuer l'eau, Parce qu'il ne faut pas oublier que souvent aussi, ces terres forestières-là ont été bûchées, puis les interventions des machines ont vraiment changé l'hydrologie. Comme qu'on a changé l'hydrologie des bas de vallée, là, qui étaient les vallées alluvionnaires d'une extrême fertilité. C'était ça.
Puis j'aimerais ça, si tu es capable, de nous expliquer c'est quoi la podzolisation, parce que c'est un processus fondamental du nord du Saint-Laurent puis du Bouclier canadien. C'est quoi la podzolisation?
La podzolisation, c'est comme des théories qui parlent de la mobilisation de l'humus, du topsoil, des sols acides. Dans le fond, c'est aussi des précipitations des différents horizons de sol. Parce que dans les différents horizons de sol, on va avoir l'horizon 1 qui va être souvent l'humus, la matière organique. Puis, par la suite, on va avoir des horizons plus minérales. Mm-hmm. Donc, dans la dynamique de la matière organique, puis de la richesse des nutriments, de la matière parente. Donc, souvent, ça va être la roche. Quand il y a eu les périodes de glaciation, déglaciation, il y a eu une certaine érosion de la roche, la roche mère, mais aussi, pas juste la roche, il y a aussi plein de dépôts de sol, pas de sol, mais on va dire un dépôt de chaud. Il y a un dépôt de chaud en amont, le glacier il a fondu, il a libéré des différents minéraux, des différents nutriments, puis là, par la suite, dans les dynamiques de matière organique lente, il y a des circonstances hydromorphiques. Fait que l'eau est des accumulations dans l'horizon 2 qui vont avoir... excuse-moi, parce qu'en temps normal, je vais lire beaucoup sur ça en anglais. Je vais mieux l'expliquer en anglais. Uh-huh.
Mais tu sais, grosso modo, on peut dire que la conséquence principale, c'est que les sols deviennent de plus en plus acides avec le temps.
Exact. Oui.
Ah, vas-y.
C'est dépendamment des minéraux qui sont retrouvés, puis comment le lessivage des minéraux est fait avec les principes. Tu sais, souvent, les matières parentes, c'est du quartz ou des débris riches en sédiments.
Uh-huh. Ça va changer donc le pH, OK?
Ça va changer, oui, exact.
Et donc, on vient à une particularité comme qui revient souvent sur le Québec, c'est qu'on a des terres acides, OK?
Oui.
Puis c'est souvent vu comme un facteur limitant, par exemple, à l'aménagement. Puis à la vision qu'on a de l'agriculture, c'est là aussi où je veux en venir. C'est quoi la particularité, dans le fond, de l'agriculture québécoise? Puis je définis agriculture comme production de végétaux puis de biomasse comestible par l'humain. Là, OK? Comment on travaille avec ça?
Comme on parlait du podzol, faut comprendre c'est quoi les meilleures techniques agriculture qui sont applicables au sol podzol ou au sol argileux, puis de passer d'implanter une technique agricole en on est dans un sol l'eau qui se draine mal, on va tout drainer le sol, mais là on manque d'eau, fait que là on va pomper de l'eau de la nappe phréatique, mais là on n'a plus de recharge de nappe phréatique. C'est de comprendre un peu je m'intéresse pas seulement à ce qui est sauvage, ce qui a déjà été là, je m'intéresse aussi à toutes les techniques agricoles de toutes les fermes dans différents pays. C'est vraiment d'adapter les bonnes techniques aux bons différents types de sols, puis de comprendre les principes de podzolisation ou d'humification, mais aussi l'implication de la dispersion des nutriments et de des périodes de glaciation et déglaciation. Tu comprends ces principes-là, par la suite, tu vas pouvoir designer ta ferme ou ton aménagement pour garder ton eau, pas perdre tes nutriments, de réduire l'acidification de ton sol, puis d'avoir une diversité des espèces.
Mm-hmm. Ça, c'est fascinant, la histoire glaciaire. Mais c'est tellement important. Tu peux nous dire juste quelques mots sur l'importance de ça, puis par exemple, les dépôts de surface. Pourquoi c'est aussi important de savoir ce qui s'est passé il y a 15 000, 20 000 ans?
15 000, 20 000 ans?
Ben, il y a 10 000 heures, tu sais, pour le dans nos latitudes, là, ou du moins c'est ça que la théorie dit. Là.
Ouais.
Mais pourquoi c'est aussi important de remonter comme ça dans le temps?
Parce que ben, c'est de comprendre comment ça s'est formé. Mais tu sais, juste de retourner avec 15 000, 10 000 ans, c'est quand même pas beaucoup parce que ce cycle-là de 100 000 ans s'est répété des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de fois. Fait que, mais je vais juste comme expliquer, comme de comprendre, il y a des différentes périodes. Dans les terres basses des Montérégies, le glacier a commencé à fondre il y a 11 000 ans. Mais là, par la suite, il y a eu la fonte des glaciers qui amenait toute la matière sédimentaire organique là. Mais il y a eu aussi des tourbières minérotropes qui se sont formées par l'aide de castors qui avaient pu commencer à travailler. Là-bas, c'était 11 000 ans, puis les Laurentides, genre Saint-Sauveur, c'était 9 500 ans. Fait qu'il y avait 2 000 ans de travail, en plus toute la matière du quartz et du feldspath qui avait tout été descendu. Fait que là, tu comprends, OK, bon, ben ces principes-là, ils peuvent prendre beaucoup d'années. C'est un principe qui s'est formé. Tu peux comprendre pourquoi qu'on a des tourbières minérotropes, pourquoi qu'on a des lacs, pourquoi qu'on a de l'eau. Puis pourquoi ces sols-là sont de différents types, là? Parce que tu vois clairement les différents dépôts de sol, autres que les dépôts éoliens, ils suivent toutes les lignes de la fonte des glaciers.
Puis, à ton avis, c'est quoi la place de l'importance de savoir ça, tu sais, parce que c'est comme quelqu'un vient te voir puis il dit je veux juste comme être plus autonome dans ma nourriture, tu sais, puis comme il te demande qu'est-ce qu'il peut planter dans son jardin, puis tu te dis wow, mon petit pit, il y a comme là tu lui donnes une perspective mais tellement énorme. Puis je veux pas dire que ces connaissances-là sont primordiales. Il y a eu des générations d'agriculteurs et de Premières Nations, quoique eux aussi avaient une perspective de long terme et que probablement que dans leur culture, leur folklore, leur mythologie, il y a des enseignements écologiques qui proviennent de l'habitation humaine de long terme, tu sais, comme des comportements qui ont survécu avec le temps, donc qui étaient plus fit évolutivement, tu sais, pour comment habiter ce territoire-là. Je parle des Premières Nations. Là.
Oui.
Mais, je me demande à quel point c'est important de savoir ça. Comment ça t'aide, toi, ces clés-là d'interprétation dans ce que tu fais?
Bien, ça m'aide à m'offrir une sécurité parce que quand tu vends un aménagement à quelqu'un, tu veux savoir comme, OK, bon, ben si, comme le cas présent, il y a une pandémie et tu n'es pas capable de t'approvisionner de chaud ou tu sais que là, dans le futur, les autres pays vont retenir leur source de minéraux ou de fertilisants, bien là, tu veux savoir d'où elle vient. Fait que là, en sachant que tu as toutes les ressources alentour de toi, puis que ces ressources-là ont eu un impact sur la formation de l'écologie, ben là, tu peux comme pas contrôler les éléments, mais commencer à les comprendre, puis de faciliter en fait le travail à long terme. Mais c'est sûr que je commence. J'ai eu la chance de rencontrer tout plein de docteurs et de chercheurs et de gens qui sont les stars dans le domaine. Puis de discuter de certains sujets, c'est sûr que je sais comment lire mon client ou lire les gens que j'essaie de transmettre des choses. Je donne beaucoup d'ateliers avec des enfants, fait que j'essaie des fois d'être vraiment capable de simplifier les choses, mais que je commence à parler de glaciers puis de volcans, là, les enfants, ils trippent. Je leur amène de l'apatite qui est de la cendre d'un volcan. Ils sont comme « Wow, un volcan! Wow! »
C'est clair. Il n'y a rien de plus impressionnant que les forces brutes de la nature, puisque ça crée sur... c'est fou, l'histoire écologique dans laquelle on est embarqué, là, puis moi, c'est quelque chose qui me fascine, puis j'aurais le goût qu'on en parle longtemps, mais j'aimerais transiter sur un autre sujet qui est tes méthodes d'aménagement. Tu disais tout à l'heure que dans tes investissements, une des choses les plus importantes, ça a été l'équipement. Mais tu as toute une flotte de pépines puis de machines qui font des gros aménagements. Puis souvent, dans le monde de la permaculture, justement, ou d'aménagement écologique, écosystémique, etc., il y a comme cet aspect de, puis on en parle depuis tout à l'heure, c'est de s'adapter à l'écosystème.
Oui. Puis
ça, dans l'intervention, ça fait en sorte qu'on est comme biaisé sur le fait de, on ne veut pas trop faire de perturbations pour pas trop endommager, disons, les écosystèmes. Comment toi, tu arrives à te pointer avec une pépine puis avoir l'impression que tu fais la bonne chose écologiquement?
Ben, juste pour commencer, je vais juste retourner à pourquoi comprendre le glacier. Le glacier qu'il y avait ici, il était 3 km de haut. Il était toute la surface. Le dommage, la perturbation écologique, la fonte de ce glacier-là d'un bulldozer immense qui tasse tout, a créé toutes les merveilles qu'on a sur cette terre. Et que on peut... Si on comprend ces principes-là, ben là, on peut faire des interventions bénéfiques.
Juste pour bien comprendre, t'es les glaciers d'une part, mais tous les régimes de perturbation sont des événements cataclysmiques.
D'une envergure incroyable. La force énergétique que ça allait libérer, là, on vivrait un tremblement de terre de magnitude de 7 là, sur la faille Logan à Montréal. Oublie ça. Ça s'est passé des centaines et des centaines de fois. Mais oui, le dommage qu'on a fait avec les machineries lourdes, c'est parce qu'aussi, il y a des différentes grosseurs de machines. Ils ont des différents impacts. Fait que, dans le fond, c'est pour ça, savoir d'avoir un effet bénéfique, il faut comprendre quel type de sol, qu'est-ce que notre intervention va faire, est-ce que notre machine est capable de restructurer sans recompacter en sortant. Tu sais, là, je me suis libéré de mon tracteur parce que pour moi, c'est une machine vraiment moins fonctionnelle. Je garde ma tractopelle puis je garde l'opportunité en fait d'avoir des différentes grosseurs de tractopelle pour multiplier en fait l'effet de l'utilisation du carbone présentement. Et puis faut pas négliger que les nouvelles machines, moi j'ai spécialement acheté une machine qui avait seulement 1% d'émanation de CO2. OK, oui, il faut prendre en compte l'impact écologique ou environnemental que la fabrication de la machine a eu, puis l'extraction du pétrole, puis l'utilisation du pétrole. Mais le travail que je fais, on n'est plus des Joe Montferrand avec une équipe de 50 bûcherons qui ont bûché génétiquement. Là, on est loin de ça. Puis je l'ai essayé de travailler juste de mon corps puis de vouloir faire tout plein de choses. Puis je me briserais le corps à essayer de le faire là présentement. Puis c'est que c'est adapté dans les montagnes.
Puis tu sais, ça c'est un point tellement important parce que toute notre civilisation est basée sur les énergies fossiles, le pétrole en particulier, puis le retour sur énergie, l'énergie investie sur... le retour sur l'énergie investie de la plupart de nos activités est absurde. Même dans le monde de l'agriculture, l'agriculture céréalière, ça demande 10 calories d'input énergétique, le plus en énergie fossile, pour une calorie de fucking nourriture. Tu sais, comme dans la nature, puis ça, je donne souvent l'exemple, dans la nature, un léopard qui dépense 10 calories pour une calorie de gazelle et mort.
Exact.
Je pense que, puis ça c'est souvent un point, est-ce que tu penses que ton retour sur énergie est plus grand?
Ben évidemment. C'est juste que là, c'est sûr que mon idéal dans le futur, j'aimerais bien travailler avec les animaux davantage. Parce que, on va dire, faire une intervention, une coupe forestière de jardinage dans une forêt avec des chevaux, ben tu vas avoir la fertilisation qui va être ajoutée. Tu vas avoir moins de perturbations du sol. Mais le processus de rentabilité, tu sais, il est moins là. Mais là, tu sais, dans le cas de... Je voudrais me faire des paliers en montagne. Je suis plus un coureur des bois. Mm-hmm. Fait que présentement, je suis pas le faire, puis j'ai pas une équipe de coureurs des bois avec moi. Mes skills de hache sont pas assez bons. J'ai pas c'est ça. Mais oui, j'ai testé tout plein de différentes machines, puis j'ai testé tout plein de différentes techniques, puis surtout dans les types d'aménagement que je fais en montagne puis en pente, c'est l'outil. C'est une extension de mon bras, en fait.
Puis Tu sais, souvent, les gens, quand ils veulent faire des jardins ou des aménagements comestibles ou peu importe, ils se concentrent sur le niveau des végétaux. Tu sais, il y a comme... il y a sûrement des... Si c'est pas un asphalte ou quoi que ce soit, il y a déjà des végétaux sur place. C'est de réfléchir comment j'enlève ces végétaux-là ou je les reproduis s'ils sont utiles, tu sais, pour installer ce que je veux. Tu sais. Si on peut nous parler comment, avec la terraformation, c'est-à-dire le fait de jouer sur la topographie puis la géographie du lieu, quels effets ça a sur la cascade d'intervention, c'est-à-dire les effets sur l'hydrographie, puis ensuite que c'est beaucoup plus facile de travailler des végétaux?
En fait, c'est évidemment, je vais observer à quel stade le terrain est rendu. Y est-tu en stade pré-prairie? Y est-tu en stade repousse? Y est-tu en stade espèce pionnière? Je ne vais jamais intervenir dans un écosystème qui a plus de 70 ans ou 100 ans, là. À moins que c'est vraiment en stade de dépérissement, puis l'intervention va être pour implanter une succession d'arbres champions. Mais c'est sûr que l'étude des végétaux puis l'étude du stade, c'est vraiment important à faire, là, parce que ça nous permet de voir, OK, bon, mais j'ai combien d'énergie à dépenser pour faire ce que je veux faire. Puis est-ce que ce que je veux faire est réaliste ou pas? C'est ça l'important aussi. Comme pour revenir au type de podzol, les sols de podzol sont fantastiques pour faire des pâturages. Si on est capable d'intégrer des pâturages avec des bordures d'arbres, puis de réduire la perte de nutriments, puis rajouter de la fertilité avec les arbres dans les champs, puis créer de l'ombre pour les animaux, bien là, on crée des facteurs multiplicateurs là, qui sont interreliés. Puis par la suite, c'est sûr que des fois, il y a des espèces qui sont vraiment faciles à cultiver une fois que tu as fait la perturbation du sol. J'ai un exemple. Quand tu plantes un arbre, c'est évident qu'il va y avoir plus de résultats dans le développement de la racine si tu as ameubli les horizons de sol qui ont peut-être qui sont pas nécessairement... Mais c'est de restructurer les horizons de sol comme du monde aussi par la suite, parce que là, sinon, tu vas tout défaire ton écologie bactérienne et fongique de ton sol. Okay, c'est quand même assez technique comme intervention, je dirais. Okay. Quand la première fois, j'ai engagé un opérateur de pelle qui était vraiment, vraiment incroyable, un jeune. Mais au début, j'y expliquais. Je dis, bon, ben, là, tu prends cette couche-là, tu la tasses de ce bord-là, tu tasses ça, là, tu reconstruis. Fait que là, ça y faisait 7 choses à penser au lieu de juste creuser, domper, creuser, domper, creuser, domper. Mais après une journée, il était comme, hey, ça a bien du sens. Puis il tripait, puis et ses skills étaient tout de suite valorisés en faisant quelque chose d'autre.
C'est ça, c'est une intervention. C'est pas chirurgical, là, parce que c'est des échelles, mais c'est très précise. Puis souvent, exactement comme tu l'as dit, un opérateur de machinerie lourde, c'est bon à faire de la voirie. Tu sais, c'est bon à comme, tu prends du gravier, là, tu le mets là, tu mets du sable, tu le mets là, puis comme, tu sais, c'est très linéaire. Puis je comprends la crainte qu'on peut avoir d'intervenir avec des telles machines qui ont le potentiel de destruction, mais qu'il y a une manière régénérative, une manière plus que durable que d'utiliser ces instruments-là.
Exact. Oui.
Puis tantôt, tu parlais de « je ne suis pas un coureur des bois, puis je n'ai pas une équipe de coureurs de bois ». Là. Ça amène le sujet des fermes forestières. Les fermes forestières, c'est un terme qu'on entend. Bon, Léonard Otis l'a utilisé pour ses forêts de proximité, dans lesquelles c'était des coopératives de bûcherons, puis des gens qui faisaient, comment on appelle ça, du métayage sur des terrains collectivement, avec une propriété collective. Puis il y a aussi notre ami Yvan Perrault qui parle de certaines formes forestières. Mais toi, je sais que tu as une interprétation de ce qu'est une ferme forestière, puis que tu as une filiation historique là-dessus et que ça ramène au coureur des bois.
Exact. Ben, en fait, je pense que Yvan Perrault partage aussi la même passion pour l'histoire des fermes forestières que moi, si peut-être pas plus. Mais ça la donne que moi, le développement des fermes forestières a fait... c'est une thématique historique et du patrimoine. C'est durant la première moitié, en fait, du 18e siècle. Ça avait été développé dans la région de la vallée de la Gatineau, mais ça avait commencé aussi par la rivière du Nord, la rivière Rouge. Puis la lièvre, ça avait été, tu sais, le coureur des bois, en fait, l'homme qui a fondé les fermes forestières était comme un dernier hybride entre coureur des bois et tellement d'affaires, là. C'était Joe Montferrand, la légende de lui-même. Puis Joe Montferrand avait comme commencé à développer les chantiers de bûcherons dans la rivière du Nord, puis jusqu'en fait ferme neuve. Puis il avait établi, lui, il établissait, c'était des fermes qui comprenaient 1500 à 2000 acres de terres cultivées, des pâturages, des terres qui s'avéraient exceptionnellement fertiles. Ça, c'est d'un document historique d'Antoine Labelle. Une ferme forestière constituait elle-même un petit hameau comprenant une spacieuse maison en pièce sur pièce, logeant le fermier et les visiteurs, des granges, des étables, des écuries, une forge, un magasin, des remises, des entrepôts. Puis dans une description de la ferme rouge, qui était une des premières fermes, qui avait été établie, elle, c'est 1835, à Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles. Mon grand-père, qui faisait son potager, il a fini sa vie à Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles. Il est même fait mention d'une sleep house, dont un dortoir où les employés de la compagnie forestière vivaient, mais aussi il y avait des Amérindiens de passage qui campaient parfois. Parce qu'il ne faut pas oublier que la 117, jusqu'à qui passe à travers Mont-Laurier, Ferme-Neuve, ben c'était l'autoroute des Premières Nations, puis de toute la traitée des fourrures, là, qui était l'économie. Puis les fermes forestières, en fait, c'était le premier moteur économique des Laurentides.
Fait que là, on est au 18e, au 19e siècle, le moteur économique principal du Canada,
c'est les produits forestiers non ligneux, c'est le ginseng et les fermes forestières.
Ben, c'est le bois, t'sais, le ginseng, la ruée au ginseng, c'est une anomalie historique qui a duré peut-être 4 ans.
Non, ça c'est faux.
Économique. Okay. Faux. Vas-y.
Ben, supposément, il y a un livre qui ont écrit davantage, mais même il y a eu un livre dans les Laurentides, le traité du ginseng du docteur Grignon. Qui était un des seuls traités francophones par rapport à le premier traité francophone par rapport à la matière. Puis il y en a un autre qui avait été fait à OCA, qui était l'Institut d'agroforesterie de la première université ou école d'agroforesterie au Canada.
J'aime ça que tu dises agroforesterie, c'est normalement dit agricole, mais j'aime ça que tu rajoutes le.
Ben, on est dans le thème de l'association des produits forestiers non ligneux.
Non, non, mais c'est...
On va bien les mettre en valeur.
Mais c'est ce que c'était. C'est souvent, on ne parle que du côté agricole, la poche Chante-Claire, etc. Mais c'était un modèle agroforestier. Mais je te laisse...
Fait que la ruée du ginseng, en fait, a continué jusqu'en dans les débuts des années 1900. Parce qu'il y avait des Anglais qui venaient encore récolter du ginseng à Oka. Donc, il y a un gros livre qui a été écrit sur ça, puis ça disait qu'en fait, la ruée du ginseng, oui, elle a crashé, mais par la suite, l'inventeur du ginseng avait été accaparé par le Dominion. Puis, ils ont continué à... Il aurait sorti, je pense, c'est 180 milliards de dollars de ginseng de 1716-18 jusqu'à 1900. Fait qu'elle a continué. C'est juste qu'elle avait été mise sous jachère, en jachère ou sous terre, là, caché. Là.
Puis pour revenir aux fermes forestières, donc, c'est principalement des compagnies forestières britanniques ou américaines, selon l'époque. Et c'est des Canadiens français qui viennent coloniser des micro-hameaux au milieu de la forêt et qui vont sa job l'hiver et reviennent dans leur hameau et ont un modèle d'agriculture en forêt.
Oui, mais dire micro-hameau, j'ai jamais vu un hameau de 2000 acres là, encore. Là. Quand tu regardes les éco-villages du Québec, les hameaux du Québec, il n'y a jamais eu un hameau de 1500 ou de 2000 acres. C'était pas micro, là. C'était gros en tabarnouche. Ouais, c'est...
Puis, y a-t-il des leçons dans la manière de produire la nourriture qui sortent de ce modèle-là?
Ben, oui, une résilience, parce que c'est, je vais donner un exemple, la ferme rouge qui est à Saint-Émile-du-Lac-des-Îles, puis là, juste en haut, il y avait la ferme neuve. Ben, dans le temps des crises et des guerres, ben, mes ancêtres ils ont facilement migré là, puis leur ferme, ils ont survécu, parce qu'il n'y avait pas aussi juste le volet agricole, il y avait toute la cueillette sauvage. Ma mère me disait que son grand-père, lui, qui a vécu à Fermeneuve, qui avait la ferme à Fermeneuve, il connaissait tous les champignons dans le bois, il connaissait tout ce qui était comestible dans le bois. Et qu'il y avait aussi, tu sais, il y avait cette sécurité-là qui était reliée à tout ça.
Fait que c'est quoi, des potagers vivriers avec des légumes de conservation, puis ben de la cueillette sauvage?
Oui, oui, puis il y avait aussi un modèle qui avait été sorti, une recommandation en 1929, c'était des fermes à multi-usage. Il y avait des rotations, il y avait comme 15 acres de pâturage, un autre 15 acres en céréales, un autre 15 acres en foin, il y avait le verger, il y avait le potager, puis à l'entour de ça, il y avait l'eau forestier qui était pour la cueillette. Puis dans tout ça, il y avait des vergers.
Mm-hmm.
Puis les animaux pâturaient dans les vergers. De la façon comment les vieux vergers que j'ai découverts, là, sont, c'est sûr que les animaux étaient interreliés.
Peut-être pour finir, là, puis ramener tout ce dont on a parlé, comment tes activités qui clairement s'inscrivent dans une perspective historique du lieu et de l'histoire, des Laurentides, puis plus généralement du Québec. Comment tu vois Permex participer de la cohérence de cette histoire-là dans le temps, si ça fait du sens comme question?
Oui. C'est parce que l'histoire, c'est notre façon de comprendre les erreurs du passé pour mieux orienter le futur. Donc, les statistiques, l'histoire terrestre, c'est une longue histoire, mais elle est quand même courte aussi. Notre impact humain est très court comparé à l'impact que tous les autres facteurs ont eu. C'est de comprendre que finalement, l'humain, dans tout ça, il est qu'observateur. Puis en tant qu'observateur, ben là, il peut comprendre les principes. Puis en sachant, c'est de rallumer une flamme aussi, parce qu'en fait, je trouve que nos modèles d'héros et nos modèles sociétaires ou de société sont pas nécessairement les bons présentement. J'ai comme voulu montrer au monde un peu que quand tu crois un rêve, tu peux le mettre en action, même si des fois, tu n'as pas nécessairement toutes les connaissances et les compétences. J'ai fait des erreurs dans mes aménagements. Mon but, c'est comme d'orienter les gens à poser plus de questions et à plus s'intéresser au passé, puis qu'est-ce qui a déjà marché dans le passé. Qu'est-ce qu'on pourrait retourner à, mais avec les technologies et les capacités qu'on a là, présentement dans le futur. T'sais, ma pelle mécanique, c'est la parfaite exemple. Là. C'est un multiplicateur de force fois 100. Puis présentement, le gaz, il est vraiment pas cher. Puis, tu sais, mon impact écologique serait bien pire de faire venir 100 woofers qui vont faire le même travail que ma pelle mécanique. T'sais, genre, le nombre de chars, le nombre de repas, le remonte de scie, tu sais, il y aurait beaucoup plus d'impact écologique à faire venir plein de monde que d'utiliser ma machine.
Puis, un impact écologique, ça peut être vu négativement, puis ça peut être vu positivement. Les énergies fossiles, c'est absolument incroyable, comme ce que ça a comme capacité, puis c'est de la photosynthèse concentrée dans le fond des mers, puis qu'on a retrouvé par chance, tu sais, comme les dernières générations. Puis, il y a un usage créatif puis créateur de photosynthèse à partir de cette photosynthèse-là enfouie. Puis je pense que c'est ce que tu prouves un peu avec tes activités.
J'essaie, je fais de mon possible.
Jérémy, c'est où que les gens peuvent en savoir plus sur toi puis te contacter?
Ben, c'est sûr qu'il y a mon site internet, www.fermex.ca. J'aurais voulu avoir un site opérationnel, puis plus facile à naviguer pour mes clients, pour mes plans de cette année, mais on était concentré sur l'établissement des projets, puis de vraiment démontrer que les produits étaient viables et productifs dans notre écosystème, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui doutait de mon projet avant que je le commence, mais là... Mais là, c'est rendu un petit peu l'effet inverse. Puis sinon, c'est sûr qu'il y a ma page Facebook, là, Permex, mais pour être honnête, j'ai été éduqué en anglais, donc je fais beaucoup de fautes quand j'écris en français. Mais néanmoins, il semble y avoir beaucoup de gens qui semblent aimer ce que j'écris ou ce que je partage. Ouais, un petit cours d'histoire de temps en temps sur ma page Facebook. Je pense que je devrais commencer un podcast, l'histoire des pays d'en haut.
Absolument. D'ailleurs, j'aimerais ça peut-être dans une prochaine chance qu'on se reparle de ces choses-là.
Avec plaisir.
Fait que Jérémy Gagnon, merci d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir. Merci, Sam. Je vous souhaite
Salut,
une
ciao.
bonne journée.